Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Mireille Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
La bibliothèque de l'Institut de France que vous dirigez recèle des trésors, des livres, des manuscrits, des archives, parmi lesquels le livre de Jean-Jacques Audubon, Les oiseaux d'Amérique, un ouvrage monumental, exceptionnel du 19e siècle, qui est aujourd'hui le livre d'art le plus coté du monde et de l'histoire. Rarement sorti des réserves de la bibliothèque, il est tout autant un livre d'art qu'un livre scientifique et historique. En tout cas, c'est un monument de la peinture naturaliste. Jean-Jacques Audubon, c'est le peintre des oiseaux pour le grand public. C'est un naturaliste d'exception et un personnage hors du commun. Mireille Pastoureau, qui était Jean-Jacques Audubon ?
Jean-Jacques Audubon était d'origine française et paradoxalement, il est davantage connu aux États-Unis sous le nom de John James Audubon, car il a passé une grande partie de sa vie aux États-Unis. Il était originaire de la Loire-Atlantique,
oui,
d'un petit village qui s'appelle Couéron, où on cultive toujours sa mémoire, car la maison de son grand-père, la Gerbetière, est toujours présente.
Oui.
Et Jean-Jacques Audubon a toujours vécu à cheval, si je puis dire, sur l'Atlantique. Entre les États-Unis et la France. C'est son père qui a commencé cette vie aventureuse. Son père était marin sur un bateau du grand-père, qui lui-même était un petit armateur nantais. Et le père avait été fait prisonnier par les Anglais pendant 3 ans, pendant la guerre de 7 ans. Et là, il avait appris la langue anglaise. Et ensuite, il a eu l'idée d'aller en Amérique. Il a aidé les insurgés américains. Il a acheté une propriété près de Philadelphie. Et ce père s'est aussi installé à Saint-Domingue, où il avait des plantations. Et c'est là que Jean-Jacques Audubon est né, d'une mère française et d'un père français, mais il est né à Saint-Domingue. Donc il était déjà un petit peu américain, si on peut dire.
Il était du côté du Nouveau Monde.
Des Indes, voilà, des Indes occidentales, tout à fait. Et il a été éduqué en partie en France. Il a passé son enfance et son adolescence en partie en France. Son père l'a inscrit à l'école des Mousses de Rochefort jusqu'à 15 ans. Mais ça ne lui plaisait pas du tout, parce qu'en réalité, il avait une passion qui était la nature. Il séchait les cours pour aller chercher des oiseaux, des nids d'oiseaux. Et il avait aussi beaucoup de talent pour les arts, notamment le dessin et la musique.
La musique également.
Également, tout à fait. Et dans ces moments difficiles en Amérique, il a vécu en donnant des leçons de français, de dessin et de musique, tout en s'adonnant au dessin des animaux, qui était la chose qui lui plaisait le plus.
Alors, il est arrivé en Amérique en 1802 à peu près. Il s'installe en Amérique, il va épouser.
Tout à fait. Une jeune femme qui a été d'une abnégation extraordinaire.
Toute
parce
sa
que
vie.
Audubon n'a jamais été riche, même moins que riche.
Elle a travaillé.
Fait faillite. Elle a dû travailler. Il partait pour des expéditions très lointaines. Mmh. Quand il a publié son livre, il a fait des longs séjours en Europe et elle l'attendait patiemment en essayant d'élever les enfants comme elle pouvait. Elle a toujours cru en lui,
oui,
et elle a survécu à tout le monde. Elle a survécu à son mari, à ses 2 fils. Et c'est elle qui, étant propriétaire de tout le lot de dessins, tous les originaux qu'Audubon avait rassemblés, c'est elle qui a, après la mort de tout le reste de sa famille, a cherché à les vendre au British Museum, à divers musées américains, et les a finalement vendus à la New York Public Library, enfin, qui héberge la New York Historical Society.
Alors, de son vivant, on va parler après, bien entendu, des oiseaux d'Amérique, mais il a toujours peint donc des oiseaux.
Oui.
Est-ce que son art de peintre naturaliste, de son vivant, a été reconnu par, disons, des officiels ?
Alors, c'était très difficile, parce qu'il était un marginal. Déjà, de par le fait qu'il était d'origine française et qu'il a dû s'implanter aux États-Unis, il a dû s'assimiler, il a essayé de faire du commerce, qui était une activité qui ne lui convenait pas. Ensuite, par sa vie quotidienne, parce que c'était un coureur des bois. Ce qu'il aimait, c'était partir plusieurs jours dans la nature, y vivre, observer les oiseaux. il a été le premier à marquer des jeunes oiseaux sur le sol américain, avec des bagues. C'est ce que faisaient déjà en Europe, ça ne se faisait pas encore en Amérique.
C'est le premier ornithologue américain.
Mais c'était un autodidacte. Il ne faisait pas partie des circuits officiels, il n'était pas universitaire. Et ça, ça l'a toujours desservi. Il y a eu des polémiques parce qu'on l'a accusé de ne pas toujours être très scientifique, très savant. Et il n'a jamais été parfaitement assimilé par le monde universitaire et académique.
Voilà, de son vivant.
Exactement. Quoi qu'il ait, il fut nommé à la fin de sa vie membre de la Royal Society à Londres. Et ça, c'était un grand couronnement. Il y a eu tout de même une évolution entre le chasseur, le trappeur, et ensuite le savant ornithologiste à la fin de
et
sa vie, qui était beaucoup plus reconnu. Voilà, oui. Quand il est venu en France, Cuvier. A organisé 3 séances à l'Académie des sciences pour la section des sciences naturelles, où il a montré ses dessins, où il a expliqué ce qu'il faisait et où il a été honoré.
Voilà.
C'était vraiment une victoire de prestige, son séjour en France. Pas en vente du livre, mais en prestige, en renom, oui.
Comment naît son projet ?
Son projet est très ancien. Quand il était tout jeune, à peine 20 ans, vous parliez de son premier voyage en 1802 en Amérique, tout de suite avant, il avait, dans l'estuaire de la Loire, dessiné 200 espèces d'oiseaux, fait des dessins, et il les a donnés à cette jeune Lucie qui l'attendait patiemment, et il lui a donné, c'était la chose la plus précieuse qu'il puisse lui offrir. C'était ces 200 dessins de l'estuaire de la Loire. Toujours, et dès qu'il est arrivé aux États-Unis, il a donc dessiné des oiseaux et après, les années suivantes, quand il a pu, il a entrepris des expéditions pour aller plus vers la Floride, la Louisiane, parce qu'eux habitaient d'abord Philadelphie puis dans le Kentucky, sur la vallée de l'Ohio. Donc, il pouvait voir certains oiseaux, mais pas d'autres. Donc, il lui fallait faire des expéditions et plus tard, quand le livre a été engagé, il est même allé jusqu'au Labrador.
Oui.
Il est allé en Louisiane, comme je disais, pour observer des oiseaux migrateurs, pour faire un panorama le plus complet possible des oiseaux d'Amérique.
Alors, ce projet, comment l'a-t-il monté ? Parce qu'il avait décidé, de peindre ces oiseaux d'Amérique.
Tout à fait.
De les peindre grandeur nature.
Oui, voilà. Oui.
Ça, c'était l'idée de base.
Oui, voilà. Sa grande idée, c'est de rendre le naturel de l'oiseau sur une feuille avec le format d'origine. Et ça, c'est très nouveau. Et il a mis au point une technique qui lui est tout à fait personnelle. Comme il était chasseur en même temps, il rapportait les oiseaux fraîchement tués, il les rapportait chez lui, alors que les autres peintres dessinaient des oiseaux empaillés, généralement de profil, qui étaient raides. Lui, il rapportait des oiseaux qui étaient encore souples, puisqu'il venait de les tuer. Il les montait, alors c'était un peu barbare, avec des fils de fer, et les fixait sur une planchette de bois tendre, des planches assez grandes qu'il avait fait composer spécialement, et il leur donnait ainsi l'attitude qu'il souhaitait. Alors ça pouvait être l'oiseau en vol, ça pouvait être l'oiseau sur son nid, l'oiseau picorant, l'oiseau courtisant la femelle, et ainsi de suite. Et ça, c'était tout à fait nouveau.
Et comment a-t-il monté, on va dire, financièrement ce projet ? Parce que c'était aussi son souci premier.
Voilà. Alors ça, c'est totalement par défaut, parce qu'il avait atteint le fond du fond. Après une faillite retentissante, il a même fait un peu de prison avec sa société de commerce. Donc, il n'avait plus que son talent et ses dessins. Et il a décidé, un peu sur le conseil de Charles-Lucien Bonaparte, il a décidé de partir en Angleterre. Parce qu'à Philadelphie, il ne trouvait personne pour publier ses gravures, publier ses dessins. Donc, il a tenté le tout pour le tout. En mai 1826, il est parti pour l'Angleterre. Et alors là, il a commencé à connaître le succès parce qu'il, déjà, humainement, il a fait sensation. Oui. Il arrivait vêtu de fourrure et de peau de bête, avec des grands cheveux bouclés jusqu'aux épaules.
Il avait le sens de l'événement.
Il sortait de sa... Il n'avait pas beaucoup à se forcer, parce qu'il était tout à fait naturel. Et il a été un peu la coqueluche de la haute société anglaise, qui, elle, était quand même assez proche de la société américaine, naturellement. Et donc, on l'a promené un petit peu de salon en salon, de dîner en dîner, de société savante en société savante. Et il a trouvé... à Édimbourg pour commencer, un graveur qui a bien voulu graver ses planches. Alors, il a fallu beaucoup de persuasion de la part d'Audubon, parce que ça coûtait extrêmement cher de faire des planches aussi grandes. Le format du papier est de double éléphant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grand comme feuille de papier au XIXe siècle. Ce sont des feuilles qui font près de 1 mètre de haut sur près de 70 cm de large.
L'ouvrage est très, très grand.
Il était un peu fou, comme vous le constatez, et très ambitieux pour son œuvre. Donc il voulait ce qu'il y avait de mieux, et il a trouvé un graveur qui a bien voulu, mais qui, au bout de quelques mois, a renoncé, parce que ses gravures étaient gravées avec une technique de l'aquatinte, qui est un peu comme la gravure en taille douce, enfin c'est à l'acide. Elles étaient gravées en noir et blanc, et après, il fallait les colorier à la main, et c'est extrêmement difficile. Et à Édimbourg, le graveur n'avait pas dans son atelier, dans son équipe, des personnes capables d'apposer correctement les couleurs. Donc le graveur d'Édimbourg a déclaré forfait. Audubon est parti à Londres,
et c'est là qu'il
a trouvé un autre graveur qui s'appelle Havel. Le premier graveur c'était Lizard, le deuxième s'appelle Havel, et le deuxième était vraiment excellent. Avait dans son atelier des personnes remarquables qui ont apposé des couleurs qui sont magnifiques. Surtout dans l'exemplaire de l'Institut, qui est un exemplaire très frais, qui n'a jamais vu la lumière ou peu, parce que d'autres exemplaires, s'ils ont été exposés, ont vu leurs couleurs pâlir. Ce n'est pas le cas de notre exemplaire, et je vous assure que c'est absolument fabuleux. Il y a des bleus d'une luminosité exceptionnelle, on dirait du lapis-lazuli. Et alors, Audubon, non seulement avait laissé ses dessins comme modèle de couleur, mais avait apporté et après a envoyé des plumes d'oiseaux.
Pour que les coloristes fassent
exactement les couleurs au modèle, et c'est magnifique, c'est somptueux.
J'en ai vu effectivement quelques-unes et c'est...
Il faut voir les originaux, parce que les reproductions ne rendent pas compte ni du format des planches, ni de la...
Et ni de la densité des coloris,
exactement.
C'est vraiment très beau. Il lance une souscription pour monter ce fameux projet qui a du succès à la fois en Angleterre, en France, aux États-Unis, mais dans quelle proportion ?
Voilà. Donc la seule façon de faire ce projet, c'était une souscription, parce qu'il projetait de faire 400 planches. Donc
là
c'était
aussi,
très
c'était
coûteux.
Encore monumental.
Et au final, il y en a eu 435, parce qu'il a complété, il a tenu à ajouter tout ce qu'il trouvait d'important. Donc pour publier une aussi grande œuvre, il fallait avoir du temps devant soi. L'entreprise a pris 12 ans. Et il n'avait pas naturellement les fonds qui permettaient de faire la mise de fonds tout de suite. Donc il fallait une souscription. Et pour une souscription, il fallait trouver des acheteurs très fortunés. Ça coûtait extrêmement cher. À l'Académie des sciences où il a montré son œuvre, on a trouvé ça sublime, mais les académiciens ont été horrifiés par le prix. Et il n'y a eu en France que 14 souscriptions. Alors qu'il en a eu 140 en Angleterre. Et après, aux États-Unis, il a eu aussi un assez grand succès. Et ensuite, aux États-Unis, il a fait une édition réduite, bon marché, qui a bénéficié de la notoriété du grand livre et qui s'est beaucoup plus vendue, beaucoup mieux vendue.
C'est l'édition Jean-Jean ? Non, ça c'est autre
non,
chose.
Non, c'est
Pascal
une édition Jean-Jean. Américaine.
Une édition américaine
en petit format, d'accord. Octavo, et qui a eu un succès populaire. Mais qui n'a pas du tout la beauté de la grande édition, qui est une œuvre de collection.
C'est La vie des oiseaux non plus ?
Non, c'est les oiseaux d'Amérique en petit format. Voilà.
Mais ce qui était astucieux, on va dire.
Oui.
Quelle est l'originalité de Jean-Jacques Audubon parmi les peintres naturalistes de son époque ?
Oui. Alors, l'originalité, déjà, c'est l'attitude des oiseaux, comme je vous l'expliquais, des oiseaux vivants qu'il avait chassés, qu'il avait observés dans la nature. Il faut ajouter que très souvent, il tient à dessiner un paysage de fond. Les animaux sont situés dans leur milieu naturel. Et il avait également, pour vivre, ou par goût, fait des peintures de paysages qui n'ont pas été conservées malheureusement, mais c'était un peintre sous tous ses aspects. Donc les animaux sont représentés dans leur milieu naturel, dans des attitudes naturelles, et c'est une des premières tentatives de recensement de tous les oiseaux d'Amérique. Donc il y a 449 espèces qui sont recensées, parce que quelquefois il y en a plusieurs par planche, il a été obligé de les regrouper, et en tout 1065 images d'oiseaux. Très souvent il montre le mâle, la femelle, les petits, ou quelquefois l'oiseau en diverses saisons, en été, en hiver, quand le plumage est différent. Donc c'est un recensement assez complet. Bon, il n'est pas le seul, il y avait un autre ornithologue américain, Wilson. Il y avait le Charles Lucien Bonaparte qui a également fait un livre. Il y avait une compétition à l'époque entre les savants. Oui. Mais il tient sa place déjà par l'ampleur du projet et cette qualité artistique que n'ont pas les autres livres de science. Et qui lui a aussi fait du tort parce qu'on l'a accusé de vouloir faire joli, de mettre des fleurs, de mettre des branches. Et ça, pour les savants qui parfois étaient austères, ça pouvait paraître superflu.
En même temps, ça donne la juste proportion des oiseaux représentés, parce que certains sont tout petits dans une belle, un beau feuillage, et pour d'autres, il faudra le cadre du paysage pour le mettre en valeur.
Donc exactement. Alors, il n'a pas toujours fait lui-même les paysages. Il avait des aides, notamment au début, un jeune garçon de 13 ans qui l'avait décelé parce qu'il était très doué. Et qui se chargeait de faire les paysages. Lui n'avait pas le temps de tout faire. Et puis après, il a eu son fils. Un de ses deux fils était également très doué pour le dessin et pour les planches de fin. Et puis après, pour les quadrupèdes, parce qu'il a fait d'autres animaux, il a associé son fils à l'entreprise.
Il a transmis le virus.
Oui.
Alors, donc, l'enjeu était d'abord d'ordre scientifique, l'enjeu d'une pareille aventure éditoriale. Mireille Pastoureau, quels étaient... Donc, on a vu Cuvier tout à l'heure parmi les personnages scientifiques qu'il avait croisé, mais est-ce que ça représentait pour des particuliers une attirance particulière? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a le côté artistique, le côté scientifique, mais ce côté artistique, il était mis en valeur à l'époque? Vous parliez de critique tout à l'heure.
Tout à fait.
Mais est-ce que du côté des particuliers, en dehors du monde scientifique,
oui,
a été le regard des...
En Angleterre, un grand intérêt à cause du lien entre l'Angleterre et les États-Unis. En France, curieusement, à l'époque, les États-Unis n'étaient pas très bien connus et investir une grande somme d'argent dans un ouvrage sur les oiseaux d'Amérique ne paraissait pas toujours un bon projet pour les grands collectionneurs. Alors, Audubon a reçu un bon accueil de la part des personnes qui connaissaient déjà l'Amérique. C'est le cas du duc d'Orléans, futur roi Louis-Philippe, qu'il a reçu en 1828, quand Audubon est venu en France, et le duc d'Orléans avait passé 4 années en Amérique, de 1796 à 1800, et donc a commandé le livre. Et le ministère de l'Instruction publique a aussi acquis 6 exemplaires du livre qu'il a donné, sans doute, à des bibliothèques françaises. On en a retrouvé un, il n'y a pas très longtemps, à la bibliothèque de Besançon. C'est un trésor, parce que vous savez qu'il y a très peu d'exemplaires en France.
Oui, oui, oui.
Actuellement, nous connaissons celui du Muséum,
en France,
du Muséum national d'histoire naturelle, nous connaissons celui de l'Institut de France. La Bibliothèque nationale a l'exemplaire de Cuvier, mais qui est incomplet parce que Cuvier est mort avant la fin de la parution. Et nous venons de découvrir l'exemplaire de Besançon. Donc, pour le moment, 4 exemplaires seulement sont connus en France. Parce qu'il faut savoir que ce livre est tellement cher que beaucoup...
Quelle est sa valeur actuelle?
Alors, ça dépend de la reliure, ça dépend de l'état, des couleurs. L'exemplaire le plus cher s'est vendu en 2000 pour 8,8 millions de dollars à un prince arabe, parce qu'il provenait d'une collection anglaise avec donc une très bonne provenance et une magnifique reliure. Les planches se vendent en revanche isolément, donc beaucoup d'exemplaires, parce qu'il y a 435 planches, c'est énorme. Beaucoup d'exemplaires ont été désossés,
comme on dit
vulgairement, et les planches vendues séparément, des personnes les encadrent. Alors la valeur des planches est variable selon l'animal représenté. La première planche, qui est le dindon, et la plus célèbre, et aussi l'aigle américain, le flamant rose, le cygne. Bon, il y a des planches, et il y a des planches qui ont une moindre valeur marchande parce qu'elles représentent des petits oiseaux sur des branches qui ont du charme, mais qui sont moins spectaculaires. Donc les planches, c'est plus variable. Il y en a une qui a été vendue 22 000 dollars, c'est la planche 1, le dindon, mais c'était en 1987, donc c'est déjà ancien. Ça dépend aussi de l'état du coloris, de la fraîcheur du coloris. Oui.
Alors, donc la bibliothèque de l'Institut, si j'ai bien compris, dispose d'un exemplaire qui en plus est d'une qualité très rare.
Oui, tout à fait. Et alors il a la particularité d'être relié en 2 très gros volumes, parce que ces 435 planches faisaient l'objet traditionnellement de 4 volumes. Il y avait 4 volumes de 100 planches, plus un supplément de 35 planches, paru tout à la fin. Et je ne sais pour quelle raison, à la bibliothèque de l'Institut, les planches sont reliées par 200. Donc nous avons 2 volumes de 200 planches qui sont absolument colossaux. Il faut 2 personnes pour les transporter.
Aller le chercher.
Oui, voilà. Oui, c'est tout à fait spectaculaire.
quand il est ouvert, il prend toute la place là, de la grande table au fond de la bibliothèque.
Oui.
Il est manipulé évidemment avec précaution. Alors, il y a des oiseaux, mais il y a aussi des paysages, comme on l'a vu représenté sur ces aquarelles.
Oui.
La nature est reine. Y a-t-il des personnages figurés ?
Très peu. Quelques petites silhouettes dans le fond, mais vraiment, Audubon s'intéressait avant tout aux animaux. Il n'était pas un portraitiste de personne. Enfin, il l'a peut-être fait, mais ce ne sont pas des œuvres qui ont été conservées. On conserve à peu près, outre ces oiseaux, 70 peintures de lui, mais essentiellement des animaux. Il s'est spécialisé dans les animaux et il s'est formé lui-même. Alors, il a prétendu, à la fin de sa vie, qu'il avait été élève de David. Mais des recherches ont été faites et c'est faux. Non, c'était une façon d'agrémenter sa carte de visite. Mais il est autodidacte, mais très doué, très talentueux, très personnel. Mais,
De toute façon, la qualité de ses aquarelles est vraiment absolument reconnue. Qu'est-ce qui a fait l'intérêt de ce livre, qui est à la fois un livre d'art, un ouvrage naturaliste, un ouvrage scientifique, historique ? Parce que, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un livre d'écologie, puisqu'il témoigne de la présence des oiseaux sur le continent nord-américain à un moment donné ? Est-ce que c'est aussi dans l'esprit de l'époque ? Est-ce que c'était déjà un livre pour défendre la nature, parce que ça fait aussi partie de l'esprit pionnier américain.
Oui, absolument. En tout cas, lui, je pense qu'il était écologiste avant l'heure, incontestablement.
Ça.
Il avait toujours, dans les maisons qu'il a occupées, il avait toujours un grand jardin. Il recueillait tous les animaux, il les élevait, il les dessinait, il en offrait. C'était un homme très proche de la nature. Et quand il partait faire ses expéditions, il partait parfois plusieurs semaines vivant seul dans la nature. Et alors évidemment, comme les hommes du temps, ils n'hésitaient pas à tuer, ils chassaient aussi. Ils ne protégeaient pas à tout prix, mais à cette époque, la nature était luxuriante. C'était certainement un écologiste avant l'heure et il a toujours représenté justement les animaux dans leur milieu naturel. Il n'était pas du tout un homme de cabinet, un homme de musée. Ce n'était pas du tout son idée d'avoir des animaux empaillés. Il aimait les animaux vivants et s'il les tuait, c'était pour se nourrir et puis pour les observer et pour les peindre.
Et est-ce que les scientifiques d'aujourd'hui utilisent le livre de Jean-Jacques Audubon comme une référence, étant donné la précision des images et la disparition de plusieurs espèces parce qu'on...
Oui. Alors, bon, je ne suis pas du tout spécialiste du domaine. Je crois que maintenant, il est scientifiquement dépassé. Alors, il a fait un livre de texte qui complète le livre de planches.
Alors, a-t-il écrit, justement ?
Voilà. Parce que avait du mal. Il s'est fait aider parce qu'il n'avait pas fait beaucoup d'études. Oui. Mais il avait beaucoup de choses à dire. Mais il a fait un livre qui décrit les planches. Donc, le plan du livre, c'est en 4 volumes. Le livre s'appelle Ornithological Biography. Et c'est en 4 volumes. Donc, il suit les planches. Et pour chaque planche, il a donné un texte où il raconte comment il a trouvé l'oiseau, comment il l'a observé, ses séances de chasse. C'est très concret comme texte. Ça a été un petit peu réécrit par un de ses associés. Donc, il a tenu à faire un livre. C'est ce qui lui a valu d'être élu à la Royal Society.
Ça, il l'a fait
c'est-à-dire qu'une fois qu'il a commencé à publier les planches et que l'entreprise a été lancée, il a senti le besoin de compléter ce qui n'était qu'un énorme album, de le compléter par un ouvrage dans lequel il consignait tout de même ses connaissances. Mmh. Parce que c'est un homme qui a tenu un journal toute sa vie, où il prenait des notes. Mais ce n'était pas rédigé à la façon d'un homme très instruit.
Comment le livre de Jean-Jacques Audubon, Les oiseaux d'Amérique, a-t-il été diffusé de son vivant et puis après sa mort ?
Donc de son vivant, il était très important pour lui de vendre des exemplaires. Il a accordé beaucoup de soins à faire de la publicité pour cette souscription qui a commencé en 1827 et le livre a été publié en gros de 1828 à 1838. Et donc il y a eu, à ma connaissance, 175 exemplaires imprimés. Il a eu 175 souscriptions et on en a conservé 130 à 140, semble-t-il, exemplaires, enfin plus ou moins complet. Et ensuite, il a eu l'idée, donc il est retourné aux États-Unis et il a eu l'idée de faire une édition réduite et bon marché qui pouvait se vendre plus largement. Alors là, je n'ai pas le tirage de cette édition réduite qui a eu beaucoup de succès parce qu'il avait acquis une grande notoriété. Et donc, de cette façon-là, il a pu avoir des vieux jours un peu mieux assurés que le début de sa carrière.
Et puis, peut-être que les ouvrages ont aussi été revendus, du coup, peut-être assez rapidement.
Oui. Ce sont des livres tout de même qui font des fonds de bibliothèques qu'on a gardés dans des collections en Angleterre ou en France, dans des bibliothèques. Ce sont des grands ouvrages de référence. Alors, paradoxalement, les Français n'ont pas bien reconnu l'originalité et la valeur d'Audubon avant les années 1960. Bon, à son époque, il y a eu une traduction française du texte, partielle, d'extrait, en 1857. Et après cela, tout ça est retombé, les Français ne s'intéressant pas beaucoup à l'Amérique, surtout sur le plan des sciences naturelles. Et c'est seulement en 1960 qu'il y a eu en France une exposition au Centre culturel américain ou une institution de ce genre, et qu'on a commencé à faire connaître Audubon. C'est aussi à partir de ce moment-là que la région nantaise s'est souvenue que c'était un enfant du pays. Voilà. Et en revanche, les Américains, après, lui ont toujours voué un culte parce que ses gravures sont magnifiques. On en a fait des calendriers, enfin toutes sortes de choses. Il y a des sociétés Audubon un peu partout. Le nom d'Audubon aux États-Unis est très connu. Et en France, commence à peine à être connu.
Les oiseaux d'Amérique ont aussi fait l'objet d'une publication complémentaire ou différente intitulée « La vie des oiseaux ». Mireille Pastoureau, pouvez-vous nous parler de cette version qui était justement accompagnée de textes? Donc c'est ça dont vous nous parliez tout à l'heure.
Ça doit être... oui, je n'ai pas le titre exact parce que nous, à la bibliothèque, nous n'avons pas cette édition réduite. L'Institut avait acheté la grande édition.
Déjà un peu bien.
À juger. Alors, vous savez, l'Institut, c'était une institution savante et la bibliothèque prenait les livres savants. Donc il n'est pas étonnant que l'Institut n'ait pas acheté une édition populaire réduite. Ce n'était pas du tout son objectif.
D'accord. Et quand ce livre a-t-il été acheté par la bibliothèque?
Au moment de la souscription. Donc, Audubon a lancé sa souscription d'abord en Angleterre. Voilà. Il est arrivé en 26, souscription en 27. Le livre commence à paraître en 28. Là, il ressent le besoin de trouver d'autres clients. Il vient en France en 1828. Il fait des visites. Il est invité à l'Académie des sciences par Cuvier, par trois fois. Il montre ses dessins, il montre le projet, il annonce le prix de l'œuvre, qui terrifie un petit peu les acheteurs potentiels, mais l'Institut souscrit. Voilà. Et donc l'Institut a ensuite reçu les livraisons, les planches paraissaient par fascicule. Il y avait tout un programme, c'était des fascicules de 5 planches et il devait y avoir 5 fascicules par an. C'était son rythme de publication. Et dans ces fascicules de 5 planches, les deux premières contenaient des grands oiseaux, étaient des très grandes planches, très spectaculaires. Et les trois autres planches de la livraison représentaient des oiseaux moins importants, des petits oiseaux, parce qu'il a décrit tous les oiseaux d'Amérique. Alors, comme je vous le disais, on connaît les grands qui sont tout contorsionnés dans la feuille, le flamant rose, le cygne, etc., qui nous marquent à cause de ces formes finalement très modernes. Mais il a également décrit les plus petits oiseaux, les oiseaux-mouches, les pivers, enfin, tous les oiseaux.
Ils ont tous des noms charmants, hein, le chevalier à pattes jaunes, l'océanite cul blanc, la grande aigrette, la chouette rayée, ils sont tous aussi magnifiques. Tous ces oiseaux, et le pélican blanc est vraiment très 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 impressionnant puisqu'il le fond est justement dans les bleus et bleu profond, on dirait une nuit,
tout à fait,
au bord d'un lac avec de la mer.
Il avait un sens artistique inné. Oui.
C'est assez surprenant. Mireille Pastoureau, à quelle occasion ce beau livre est-il montré?
Alors, ce livre ne peut pas être montré quotidiennement, comme vous le comprenez, déjà du fait de son format, de son poids, du fait de la fraîcheur des coloris qui ne doivent pas trop souffrir de la lumière. Et donc, nous le montrons à bon escient, c'est-à-dire pour les grands bibliophiles, les grands spécialistes, je dirais... deux fois par an, quelques, voilà.
Parfois quelques,
une à deux fois par an.
Quelques planches sont prêtées pour des expositions. Voilà. Je crois que ça a été le cas.
Ça a été le cas parce que les dernières planches, les dernières, sont à l'état de feuilles, n'ont pas été comprises dans la reliure. Les 35 dernières, ça, c'est la même chose pour tous les autres volumes. Le plan du volume est le suivant, 200 pour les oiseaux de terre, puis 200 pour les oiseaux de mer, les dernières étant les oiseaux faits in extremis par Audubon quand il retournait aux États-Unis pour vraiment parachever son œuvre. Et les dernières planches sont très belles parce qu'il est au sommet de son art. Et c'est vraiment là qu'il a la maîtrise parfaite du dessin des oiseaux. Donc c'est arrivé que nous prêtions des planches. Je dois dire que maintenant que nous connaissons la valeur de cette œuvre, il y a quelques années, on ne se rendait pas compte à quel point c'était quelque chose d'exceptionnel. Et donc nous prenons de grandes précautions pour les préserver pour les générations futures. Et puis, il faut savoir que l'ouvrage est entièrement numérisé sur Internet. Pas notre exemplaire, mais des exemplaires américains. Il y a des sites sur Audubon.
Il y a beaucoup de sites Internet sur Jean-Jacques.
Exactement, c'est une gloire aux États-Unis et il commence à y en avoir un petit peu en France. Donc les personnes qui souhaiteraient connaître ces images peuvent aller très facilement sur Internet.
Oui, son nom est attaché à une des plus grandes associations américaines d'ornithologie, la National Audubon Society. Donc là, c'est vrai que son nom est très connu, c'est une icône presque aussi du mouvement écologique. Aux États-Unis, son nom est très 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 connu. Mireille Pastoureau, merci beaucoup d'être venue nous parler d'un des plus beaux livres qu'abrite la bibliothèque de l'Institut de France, Les oiseaux d'Amérique de Jean-Jacques Audubon, ouvrage qui a marié justement les sciences et les arts pour le plus grand bonheur des bibliophiles et des bibliothèques, puisque vu sa valeur et le nombre d'exemplaires qui existent aujourd'hui, il est enfin et toujours préservé dans les bibliothèques. Merci beaucoup Mireille Pastoureau.
Merci, au revoir.